Radio Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La confusion des hommes. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Son ministre Guizot interdisent une réunion de républicains dans un banquet à Paris. Il y a des manifestations dans les rues. Puis, un soir, une bagarre avec une troupe, des tués. Les meutes éclatent comme en 1830. Le peuple élève des barricades. Il se rue sur le château des Tuileries. S'en emporte. Louis-Philippe se sauve de justesse et part en Angleterre. Louis Philippe quitte les Tuileries le 24 février 1848. On entendait au dehors des vives fusillades du palais royal. Par moments, d'immenses clameurs montaient. Il était évident que le peuple arrivait. Monsieur Crémieux tendit la main vers ce bruit sinistre et répétait « Sire, il faut partir !» Le roi, sans une parole, ôta son chapeau de général, son uniforme et dit sans se lever « Un chapeau rond, une redingote !» On les lui apporta. Au bout d'un instant, il n'y avait plus qu'un vieux bourgeois. Puis, il cria d'une voix qui commandait à la hâte « Mes clés, mes clés !» Les clés se firent attendre. Cependant, le bruit croissait. La fusillade semblait s'approcher. La rumeur terrible grandissait. Le roi répétait « Mes clés, mes clés !» Enfin, on trouvait les clés et on les lui apporta. Il les enferma dans un portefeuille qu'il portait, et un plus gros, un valet de pied, se chargeait. Tout le monde se heurtait. On entendait les princes et les valets de pied dire « Vite, vite, vite !» La reine seule était lente et fière. On se mit en marche, traversa les Tuileries. Le roi pâlit. Quatre voitures a fait qu'il avait fait demander à l'écurie n'étaient pas là. Le peuple les brûlait sur la place du palais royal. On aperçut un petit Fiat s'arrêter. Le roi y marche rapidement. Les coups de fusil devenaient de plus en plus terribles. Le feu du peuple entrait dans les Tuileries. Le roi plongea dans le fiacre vide. La reine y suivit. « Pars !» cria le roi. Le fiacre partit. Aussitôt, les chefs des insurgés se réunissent. Le poète Lamartine, le journaliste Louis Blanc, le savant Arago, l'avocat Lachaud Rollin, l'ouvrier Albert. Ils forment un gouvernement provisoire et proclament la République. Ils décident qu'une assemblée constituante sera élue au suffrage universel, c'est-à-dire par tous les Français âgés de 21 ans. Ainsi, le nombre des électeurs passe de 240 000 à 9 millions. Ils accordent la liberté de la presse, des réunions. Ils abolissent l'esclavage des Noirs dans les colonies. La France, ce sont des transports d'allégresse. On croit qu'une époque de bonheur et de fraternité s'ouvre enfin. Jusque dans les moindres bourgades, on plante un arbre de la liberté, sauf à Sainte-Agathe-en-Anzy, le village de Pierre Max, qui devient le village à l'Astérix, dont Pierre Max est l'Astérix. De Patou, l'arbre est planté, le curé vient le bénir. Le maire fait un discours, les gens dansent, crient, vive la République! Sauf à Sainte-Agathe, bien entendu. Mais ces espoirs généreux ne durent pas. Les ouvriers souffrent. Il y a beaucoup de chômeurs partout, surtout à Paris. Louis Blanc, propose de créer des sortes d'ateliers coopératifs, mais son idée fut mal appliquée. On occupa simplement les chômeurs à des travaux de terrassement inutiles dans des ateliers nationaux. Cela n'intéressait pas les ouvriers et coûtait trop cher. Les députés de l'ensemble de l'Assemblée constituante, dont la plupart étaient de droite, firent fermer les chantiers.
Rayonnement de l'avenir. Nous entrons dans une tombe toute pénétrée d'aurore. Si tous les hommes de la terre le veulent, Dieu les exaucera. Adieu, mes amis. Et vive la République!
Alors les ouvriers parisiens prirent les armes. L'armée commandée par Cavaignac marchèrent contre eux. Il y eut une effroyable tuerie du 21 au 25 juin 1848. Plus de 4000 morts, dont Monseigneur Offre, archevêque de Paris, qui tenta de s'interposer. 11 000 prisonniers qui furent déportés en Algérie. Désormais, les rancunes durent longtemps entre les ouvriers socialistes et les bourgeois républicains. Oui, les bourgeois républicains. République, oui, la République qui massacre le peuple. La République est aux mains des anti-républicains. Dans l'Assemblée, sur 750 députés, 500 sont royalistes ou bonapartistes. Pour l'élection du président de la République, la masse des électeurs, surtout les paysans, ne votent pas pour la République. C'est-à-dire pour Lamartine ou Cavaignac, mais pour le prince Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon, le 10 décembre 1848. La famille d'Angerteuil attend dans l'angoisse le résultat des élections. Ils sont au salon, les fenêtres et doubles rideaux fermés. Le père, Hubert d'Angerteuil, est debout, le dos à la cheminée. C'est un homme de 50 ans, grand, mince, les cheveux encore bruns, visage autoritaire, porte une redingote noire. Il est comte, royaliste, catholique, vie de serrante et au conseil d'administration d'une banque. Il est inquiet et a peur que les républicains gagnent les élections. Tout, sauf la République. Tout, sauf la République. Il vient de crier sans s'en rendre compte. Sa femme, Armande, assise dans un fauteuil, vient de sursauter. Elle est née de Forteuil, à 45 ans, grande, mince, blonde, mondaine, cultivée, catholique et royaliste, porte une robe bleu roi. Le fils Guillaume d'Argenteuil est aussi à côté de sa mère. Il a 20 ans, étude de droit, grand, mince, chantin, regard fin, enfant, distingué, royaliste, fervent. Lui aussi attend. On frappe à la porte. Le père dit « Entrez !» Entre un valet de pied dans les 18 ans. Il s'avance vers le comte. Et dit « Nous avons les résultats des élections. C'est lui, Napoléon, qui les a remportés. » Le père soupire.
Nous sommes sauvés. Même s'il n'est pas royaliste, il fera régner l'ordre. Les affaires peuvent reprendre. Cette fois encore, la République n'est pas aux mains des républicains.
Armande a le sourire de soulagement. Le père envoie le valet de pied. Guillaume le regarde partir et dit « Qui est-ce? Il est nouveau ?» Puis rajoute « Bonapartiste, c'est tout de même pas le roi. » Le père se frotte les mains et dit à sa femme
« Appelle pour qu'on serve le champagne. »
Les Argenteuil habitent un hôtel particulier au Faubourg Saint-Germain, un hôtel récent que le grand-père a fait construire avant de mourir. Il a été décoré et meublé à la Louis XVI pour démontrer l'attachement à l'Ancien Régime. Guillaume erre dans les rues, il semble chercher quelqu'un et en même temps, il est dans ses pensées. Arrivé devant le lycée Henri IV, c'est la sortie des élèves. Guillaume est sur le trottoir d'en face. Il semble chercher quelqu'un au milieu de cette cohorte d'enfants. Se détache des autres pour aller sur le trottoir d'en face et dépasser Guillaume sans faire attention à lui, un enfant d'une douzaine d'années, mince, des cheveux blonds, habillé d'un pantalon et d'une veste marine. Il porte un cartable noir. Guillaume le voit s'éloigner, se pince les lèvres, hésite et le suit. Il est rouge et à chaud. Il sait que cela ne sert à rien, mais ne peut faire autrement. Il a honte. Il est comme hypnotisé par cet enfant qui est devant lui à une distance respectable. De temps en temps, l'enfant s'amuse à sauter, à courir en rond. Guillaume s'arrête pour ne pas être trop près de lui. Puis, pris de panique, Guillaume accélère son pas. Il s'approche de l'enfant, tremblant, et le dépasse en le regardant. Et l'enfant le regarde, surpris par ce jeune homme qui le regarde. et entre dans un immeuble. Sans qu'il ait entré, Guillaume se met sur le trottoir d'en face, tremblant, honteux. Il regarde la façade de l'immeuble, puis il quitte le trottoir d'un bon pas. Il retourne sur le boulevard. Là, il respire, se sent digne, lui-même, un jeune homme maigre. Un jeune homme, maigre, dans les 22 ans, chantin, veste marron, Lacoste. Bonjour Guillaume. Guillaume, heureux qu'on l'interpelle ici, semble sortir d'un cauchemar. Tiens, Henri ? Eh oui, je suis au retour à Paris, puisque l'ordre y règne, malheureusement sans roi. Guillaume soupire et dit, sans roi, nous n'avons pas de chance avec la monarchie. Henri le prend par le bras et lui dit, allons boire quelque chose? Oui, je veux bien. Ils vont vers un café. Guillaume semble revivre, d'être de retour dans le monde des civilisés. Ouf, dans le monde des civilisés.
Que je te reprenne, tu m'as pas regardé, que je te reprenne.
Margaret, écartez-vous, s'il vous plaît.
Hubert va chercher sa fille Camille qui est dans un pensionnat dans les environs de Paris. C'est une maison tenue par des religieuses qui ne connaissent rien à la vie, qui sont juste capables d'interdire des choses qu'elles ne comprennent pas et malgré elles, excitent les filles à la curiosité. Hubert est reçu par la mère supérieure dans son bureau. Ça sent la cire et l'encens. La mère supérieure est une femme de 50 ans, un peu forte, et lui dit « Vous venez reprendre votre fille, pourtant elle n'a que 16 ans. »
« Je sais, mais ma femme tient à l'avoir près d'elle. Elle veut finir son éducation elle-même. »
La mère supérieure soupire et dit « Il lui faudra beaucoup de patience. Elle a un caractère difficile, curieuse de tout et pleine d'idées égalitaires. Un vrai petit garçon. »«
Vous n'avez pas réussi à y mettre de bon ordre. Ma famille arrivera. »
La soeur supérieure, vexée, soupire, se lève et dit « Nous allons la chercher. » Il sort du bureau, il la suit. Elle l'a menée dans une petite pièce sombre où il y a une table et un banc. « Attendez ici, je vais vous la faire venir. Au revoir, monsieur le comte. »
Au revoir, ma sœur, et merci pour tout.
La sœur supérieure le quitte. Il reste là un moment à attendre, puis la porte s'ouvre. C'est sa fille. Elle est grande pour son âge, maigre, blonde, les cheveux longs, pendant... Un visage beau, encore enfant, est habillé d'un manteau beige et a la main un sac de voyage. Bonjour, père. Le père s'approche d'elle. Heureux, il l'embrasse.
Je suis heureux de te revoir, ma petite fille, que tu as grandi. Bien sûr, une jeune fille maintenant.
Elle sourit. Il prend sa valise, elle la main.
Viens, sortons d'ici.
Hubert n'aime pas les ambiances fermées des couvents, se sent mal à l'aise. Une fois dehors, un fiacre les attend. Ils y montent. Et les voilà partis. Une fois dans le fiacre avec son père, elle est toute excitée. Ah, que je suis heureuse! Je vais pouvoir enfin connaître la vie. J'ai envie de tout faire, de tout voir. J'aimerais connaître 1000 aventures, vivre comme un homme. Parce que les hommes peuvent faire des tas de choses que nous, qui nous sont interdits à nous les femmes.
Et que désires-tu faire?
Je ne sais pas moi. Marin, banquier, médecin. Pourquoi nous les femmes n'aurions-nous pas le droit de faire ce que font les hommes?
Parce que tu es une femme.
Je suis faite comme vous. Le père sourit et dit.
Pas tout à fait.
Cela ne nous empêche pas d'être tout aussi intelligente que vous.
Tu auras suffisamment à faire en étant que femme. Alors pourquoi vouloir à tout prix être un homme?
Je ne dis pas cela. Mais le temps qu'une femme passe à des frivolités, à passer son temps à des choses inutile, elle pourrait les passer, je sais pas moi, à faire une carrière, à travailler. Hubert commence à être agacé.
Les femmes de quelle condition ne travaillent pas. C'est leur mari qui les font vivre. Laisse aux femmes de conditions modestes le travail et à certaines femmes de mort légère, telles que cette George Sand, les revendications féminines. Ton travail à toi, c'est de faire en sorte à te tenir bien comme il faut pour toi, ton futur mari et tes enfants, si tu en as.
Mes pères, silence.
Ta mère s'occupera de toi. Ne gâche pas nos retrouvailles avec ses idées saugrenues.
Et ils arrivent. Sa mère est heureuse de retrouver sa fille. La fille aussi, mais appréhende pour l'avenir. Les jours passent. La fille reste avec sa mère pendant que le père travaille. Il est au conseil d'administration dans la banque des dépôts industriels. Elle voit très peu son frère qui, en plus de ses cours, sort beaucoup. Camille a l'impression d'être dans un autre pensionnat. Elle ne peut sortir seule, on surveille sa toilette, ses lectures, ses faits et gestes. Elle a l'impression que c'est pire qu'en pension. En plus de sa mère, on lui a donné une dame de compagnie, 25 ans, qui en fait 10 ans de plus, vieille fille sèche, grande, les cheveux en chignon, robe noire et stricte. Elle lui apprend le maintien, l'accompagne à ses sorties, jardin du Luxembourg ou boutique. Au 20 décembre 1848, serment de Louis-Napoléon Bonaparte. En présence de Dieu et devant le peuple français, représenté par l'Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la condition. Le citoyen Charles-Louis-Napoléon Bonaparte porte la main levée et dit « Je le jure », puis prononce le discours. Envoyé, représentant les suffrages de la nation et le serment que je viens de prêter, commande ma conduite future. Mon devoir est tracé, je le remplirai en homme d'honneur. Je verrai des ennemis de la patrie dans tous ceux qui tenteraient de changer par des voies illégales ce que la France a établi. Nous avons une grande mission à remplir, c'est de fonder une république dans l'intérêt de tous. Camille s'aperçoit que sa mère mène une vie de recluse, car malgré ses mondanités, elle sort peu, s'occupe de la maison et de préparer des soirées. Tous les matins, la mère sort de son hôtel à 6h30 pour aller à la messe. C'est une fervente catholique. Le dimanche à 11h, toute la famille y va. La famille organise des soirées avec bal dans leur hôtel. S'y retrouvent tous les aristocrates et hommes d'église. L'hôtel est tout illuminé, les portes sont grandes ouvertes, la salle de bal se trouve dans le grand salon, l'orchestre sur une estrade dans un coin. Dans le salon, attenant, se trouve le buffet, avec ses sorbets, ses glaces, ses pâtisseries, ses boissons. La bibliothèque est à disposition des fumeurs. Les invités commencent à arriver vers les 21h30. Monsieur et Madame d'Argenteuil les reçoit à l'entrée alors qu'un valet les annonce. Camille est toute excitée à ce bal. Elle a toutes les peines du monde à trouver une robe qui lui convienne. Avec sa mère, elle a décidé de mettre une robe blanche simple. Son premier bal, lorsqu'elle descend les escaliers, elle est très émue. Elle a l'impression que tous la regardent. Certains jeunes gens sont surpris et la trouvent très belle. Très vite, elle est invitée à danser. Et malheureusement, dès qu'elle prend de l'aisance, elle se met à parler de ses idées féministes et les effarouche.
Tous les messieurs le regardent.
Et la délaisse.
Suis-je bien coiffée ? Tu es ravissante. Il va me demander ma main. Ce soir même, je le sens. Tout à l'heure, quand nous danserons la mazurka.
Pourquoi à ce moment-là ?
Je ne sais pas, c'est une impression, une intuition. Je lui dirai oui tout de suite. Oui, Alexei.
Ah, merci. N'est-elle pas délicieuse ? Et sais-tu qu'elle était si excitée qu'elle n'a même pas eu la patience d'attendre sa mère ? D'ailleurs, je crois savoir qu'elle espère beaucoup de cette soirée.
N'est-ce pas naturel à son âge ?
Alexei ?
Madame Karen.
Un jeune homme charmant, 25 ans, grand, mince, veut l'inviter à danser. Oui, je veux bien. Mais il faut me dire votre nom. Henri Alas. Alors il danse. La danse finie, il lui propose de s'asseoir dans un endroit tranquille. Il trouve deux chaises dans un coin de la pièce. Henri la trouve très belle. Vous aimez la danse, mademoiselle ? Oui, beaucoup. Mais j'aimerais faire aussi autre chose. Et quoi, par exemple ? Écrire, voyager, aller en Afrique, soigner les malades. C'est très beau, mais ce n'est pas pour les femmes. Pourquoi ? Nous ne sommes pas comme vous. Oui, mais... Je sais. Mais moi, je dis que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font.
Seulement quand je l'évite.
Je n'ai pas du tout l'intention de rester enfermée chez moi à attendre mon mari. Non, je suis comme Georges Sand. Le jeune homme rougit et dit, ce n'est pas une personne très fréquentable.
Vous
ne devriez même pas connaître ce nom. Elle hausse les épaules et dit, pourquoi pas ?
Je vais sans doute vous
si vous le connaissez, je peux le connaître. Henri se lève et dit, je dois prendre congé. Au revoir, mademoiselle. Et il s'éloigne.
Betsy, nous sommes de vieilles amies.
C'est ma cousine, mais je la vois très peu. Il va falloir que je m'arrange pour lui rendre visite plus souvent.
N'est-elle pas ravissante ?
Délicieuse.
Elle est plus que cela contre ce qu'il est amoureuse de vous.
Sa façon de voir, ses pensées font vite le tour de la soirée. Très vite, elle est considérée comme une pimbèche qui restera vieille fille. Ses parents en ont eu écho. Sa mère est furieuse. Le matin, elle monte la voir à sa chambre. Sa fille est encore au lit. Elle s'approche du lit. « J'ai à te parler de ta conduite qui me déplaît beaucoup. Il faut arrêter de débiter des idées stupides, sinon tu resteras vieille fille. » Camille hausse les épaules et dit « Je m'en moque. »« Pas moi. Je ne tiens pas du tout, et nous n'avons pas du tout l'intention d'entretenir une vieille fille excentrique. Je ne suis pas encore vieille fille, et je tiens à gagner ma vie. En faisant quoi ? Il y a des tas de métiers à faire. » Pour les femmes, très peu, et aucun pour les femmes de notre monde. Eh bien, je serai la première. » La mère dit, « Tu oublies une chose, ma fille, c'est que tu es mineure et que tu nous dois obéissance. En attendant, je te donne l'ordre, c'est d'être plus aimable avec les autres et de garder tes idées révolutionnaires pour toi, d'apprendre à être une jeune fille du monde. » Je me demande ce que les religieuses t'ont appris durant toutes ces années. Je ne referai pas leur compliment de leur éducation. Elle sort de la pièce.
Et surtout, il y avait Mousine.
Ah oui, bien sûr, Mousine.
Dans les soirées, elle est délaissée par la jeunesse qui la prenne pour une raseuse et les adultes qui la trouvent chippie. Ils ont peur qu'elle dévergonde la jeunesse. Un jeune homme est triste de la voir délaissée par tous. C'est Henri Alas. Il la trouve héroïque au milieu de tous. Il se dit qu'elle a du caractère et a plus de relief à côté de ces pins beiges qui ne pensent qu'aux toilettes. Oui, elle a du cran. Il va vers elle et l'invite à danser. Elle lui dit « Que vont penser les gens si vous vont danser avec moi? Ils penseront ce qu'ils voudront. Moi, je veux danser avec la plus jolie fille et la plus intelligente de l'assemblée. » Et il l'emmène. Il danse et comme il se savait pris par de centaines d'yeux, il ne se parle pas.
Oui, bien sûr, Madame la Comtesse.
Et surtout, vous ne voyez que des négresses là-bas, je suppose.
Oui, en général, Madame la Comtesse.
Elle se promène vraiment toute nue, comme sur les gravures?
Pas tout à fait, mais presque.
Je vois que ce sujet vous gêne, lieutenant. Je n'en parlerai plus.
Vous ne me gêne pas, au contraire.
Mais vous rougissez, lieutenant. Vous êtes jeune.
Vous ne me semblez pas très âgé non plus, Madame la Comtesse.
Ah, vous trouvez. Avec tout, Madame la Comtesse, je commence à me sentir un peu votre grand-mère.
Oh, je suis navré, Madame la Comtesse.
Minutes, pas si vite. Laisse-moi le temps de profiter de mon cigare.
À vos ordres, monsieur le président.
Comment vont Linda et les enfants?
Après avoir dansé, ils se sont arrêtés avant les autres. Il la ramène et s'assoit à côté d'elle. Il lui dit, je ne partage pas toutes vos idées, mais je trouve que vous avez du cran. Elle est émue malgré elle. Merci. Il lui dit aussi, « Moi aussi, je trouve que les femmes sont trop... trop indépendante de leur mari. J'aimerais que ma femme soit la plus libre possible. Mais il y a des choses que les femmes ne peuvent faire parce qu'elles sont différentes physiquement. Mais pour ce qui est de l'intelligence et de l'esprit, oui, elles sont égales à nous. Je crois que ce serait dur pour vous d'accéder à l'indépendance. Mais je vous comprends. Moi aussi, je souhaiterais faire des choses et je ne peux pas à cause de mon rang, ma famille. Je suis un peu comme vous. Vous aimeriez faire quoi? Je suis intéressé par la science. J'aimerais faire des recherches en laboratoire, travailler sur le corps humain. Eh? Ils se parlent ainsi durant toute la soirée. Camille se met à l'apprécier. Elle est heureuse d'avoir un compagnon pour pouvoir parler. Lui la trouve très belle et intelligente. Il aimerait lui faire la cour, mais il se sent que ce serait difficile et long.
Le docteur José Luciano de Castro.
Un après-midi, Guillaume marche dans les rues de Paris. Il est dans ses pensées. Tout à coup, « Alors, Guillaume !» Il lève la tête et voit devant lui un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il est grand, mince, brun, avec une peau très blanche, un nez et des lèvres bien faites. Porte une redingote marine, le jeune homme lui dit « Comment se fait-il qu'un jeune homme comme toi soit toujours seul ?» Guillaume lui dit « Frédéric, je croyais en Normandie. Nous devions partir en Normandie, mais vu que les événements se sont arrangés, nous sommes restés. Pourquoi tu me regardes ainsi ?» Guillaume regarde Frédéric comme s'il le voyait pour la première fois. Il se demande comment il a fait pour ne pas le voir. Comment a-t-il pu passer à côté de ce beau visage? Frédéric lui tape l'épaule et lui dit « Tu m'accompagnes? J'ai rendez-vous avec ma sœur. » « Je ne sais. Tu ne gêneras pas du tout. Nous n'avons absolument rien à nous dire. » Elle a 25 ans. Les hommes la trouvent superbe. Mais elle n'est toujours pas mariée. Elle aime trop les hommes pour en choisir un. C'est un scandale, une femme comme ça, dans une famille. » Guillaume sourit et dit « Ma sœur qui n'a que 16 ans, c'est la même chose. » Frédéric prend Guillaume par le bras, ce qui le fait rougir de plaisir. La sœur de Frédéric Leclerc, Odile, habite dans l'hôtel de ses parents, mais où l'on a aménagé un appartement pour elle. Frédéric sonne à sa porte. Une bonne les a fait rentrer. Elle les mène au salon. Meublé en pire, Odile va vers eux. Elle porte une robe d'intérieur rose et blanc, grande, mince, les cheveux longs, tombants, blonds, bouclés. Elle a d'immenses yeux bleus et une bouche très sensuelle, belle, peut-être, mais surtout charmante. C'est son maintien, sourire, qui la rend belle. Elle est surprise de trouver quelqu'un avec son frère. « Je me suis permis de venir avec mon ami Guillaume d'Argenteuil. »« Mais tu as fort bien fait. » Elle s'approche. et lui tend la main pour qu'il l'embrasse, puis les fait asseoir sur des fauteuils. Qui se trouve devant une table basse, elle demande « Café, thé ?» Ils disent « Café ». Elle fait venir la bonne pour qu'il les serve. Amenez-nous du café. Odile est tout de suite conquise par Guillaume. Elle le trouve beau, mystérieux, a du charme. Guillaume se sent gêné par ce regard qui se pose sur lui. Vous êtes connu où ? Frédéric répond, au lycée, puis nous sommes revus de temps en temps. Mais Guillaume est un solitaire, il passe ses journées seul. Au fait, je t'ai jamais vu avec quelqu'un. Guillaume rougit. La bonne apporte le café. Odile les sert. C'est le goût de la solitude qui vous fait vivre ainsi. Je ne vis pas seul, je vis dans ma famille. Mais il est vrai que j'aime marcher seul, cela me détend et ça me permet de réfléchir tranquillement. Vous n'aimez pas la compagnie ? Oui, mademoiselle, mais j'aime les gens qui sortent du commun. Il rougit, baisse la tête, puis continue. Comme vous deux, par exemple. Elle sourit. Et se dit qu'il est pris par son charme. Guillaume regarde Frédéric, qui ne dit rien. Il voit qu'il a les lèvres légèrement ouvertes et laisse voir le blanc de ses dents. Elle lui dit « Demain soir, je reçois quelques amis. Vous pouvez venir si vous le souhaitez. » Frédéric lui dit « Tu ne m'avais pas dit que tu faisais une petite soirée. Mais tu peux venir si tu veux. Et vous, Frédéric ?» Vous viendrez, n'est-ce pas ? C'est à 21h, ici. Ce sera très simple. Nous jouerons aux cartes, ferons du piano, il y aura du champagne, quelques petits amuse-gueuses, mais je ne fais pas de souper. Alors, c'est oui ? Elle lui sourit. Il regarde Frédéric et dit « Oui ». Puis, il se lève. Je dois partir. Frédéric se lève aussi. Je pars avec toi. Et ils disent au revoir à Odile et partent.
Thank you.
Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La confusion des hommes, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.